guerre du Vietnam, c'est véritablement, on peut le dire, c'est un assassin. Et cet homme-là, qui ensuite a présidé la Banque mondiale, eh bien, a été parmi les financiers du WWF international. Chez nous, on trouve par exemple le député maire du Front National, Charles de Chambrun, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a été député et maire de Saint-Gilles dans le Gard, Front National. Comme j'ai moi une liste qui date de 88 et que Charles de Chambrun a été élu député du Front National en 86, ça veut dire qu'en 88, le WWF estimait normal de faire financer ses activités par un député maire du parti de Jean-Marie Le Pen. Je crois que c'est important de le savoir. Tout de même, ce n'est pas une affaire si indifférente que cela. Alors certains pourraient dire, oui, c'est de la vieille histoire, vous nous sortez des vieux trucs, des vieux machins, ça date de 20 ans, ça date de 30 ans, ça date de 40 ans, ça date de 50 ans, etc. Très bien. Prenons la situation actuelle du WWF, et vous allez voir tout de suite que la manière dont le WWF est vraiment mouillé dans des histoires, mais qui me paraissent vraiment insupportables. C'est-à-dire, quand je dis insupportable, ce n'est pas une manière de me faire plaisir avec un mot. Ça me fait mal de le penser, de le savoir, mais je le dis aussi. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, le WWF international, qui est mouillé dans des combines, il faut le dire, avec des transnationales, les pires de la planète, Monsanto par exemple. Il faut savoir que le WWF international siège dans une structure informelle qui s'appelle une table ronde, un siège escalité et sert d'alibi et de caution à un rassemblement d'industriels pour essayer de définir les contours d'un label commercial permettant de vendre dans le monde entier du soja. Soja, je le dis en passage, j'insiste pas, mais qui est une arme de destruction massive des écosystèmes et qui s'attaque évidemment en Amérique latine, au Paraguay, en Argentine, au Brésil, aux vieilles communautés paysannes, aux communautés indiennes, parce que le soja remplace peu à peu des milieux comme la forêt tropicale, des milieux comme le cerrado, qui est la savane au Brésil, qui est un milieu d'une biodiversité absolument exceptionnelle, et des lieux où habitaient évidemment des paysans, des indiens. Le soja, qui était inexistant il y a 40 ans en Amérique latine, couvre aujourd'hui peut-être 45 ou 50 millions d'hectares dans ces pays-là. Et c'est, dans la plupart des cas, du soja transgénique, du soja OGM. Les grands industriels, dont Monsanto, veulent vendre ce soja de par le monde. C'est beaucoup mieux s'il y a un label dit durable ou dit soutenable. En tout cas, c'est beaucoup mieux s'il y a un label breveté WWF. Eh bien, le WWF, aux grandes dames des associations de bataille sociale, de combat paysan en Amérique latine, je connais certains de ces militants très valeureux qui se battent en Amérique latine contre ce système complètement criminel. Eh bien, aux grandes dames de ces associations, le WWF accepte de siéger dans une table ronde avec Monsanto pour définir les contours d'un label commercial. C'est vrai avec les biocarburants, ce qui est inouï à mes yeux, puisque les biocarburants, par définition, c'est une industrie criminelle qui consiste à changer des plantes alimentaires en carburant automobile, dans un monde où, je vous le rappelle, il y a quand même 1,2 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Donc le WWF fait pareil avec les industriels du biocarburant, fait pareil avec les industriels de l'industrie de l'huile de palme, pardon.
Qui finance
l'industrie
WWF?
L'industrie, très largement.
Qui?
En France, par exemple, il y a des partenariats avec Bouygues, par exemple. Il y a des partenariats avec le cimentier Lafarge. Le cimentier Lafarge, il faut comprendre ce que c'est qu'un cimentier dans l'économie mondialisée qu'est la nôtre. Les cimenteries sont parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Donc, en nouant des contrats avantageux pour le WWF, mais avantageux pour l'industriel, en agissant de la sorte, on achète, comme au Moyen-Âge, des indulgences, comme on faisait avec...
Voilà, c'est ça, on blanchit son image, on verdit son image.
C'est du greenwashing à fond, c'est-à-dire que Lafarge a des casseroles au cul, pardonnez-moi l'expression, dans un grand nombre de pays de la planète, hein, au Bangladesh, notamment en Inde et ailleurs. Hein. Ils se sont heurtés à une opposition massive et formidable, d'ailleurs, en France, au large de Quiberon. Lafarge voulait extraire des quantités phénoménales de sable, et il y a eu une levée en masse d'associations en Bretagne, autour d'une fédération qui s'appelle le Peuple des Dunes. Ils ont carrément dit qu'ils n'entendaient pas négocier avec Lafarge et ils ont gagné. Lafarge a reculé parce qu'évidemment, le risque pour son image de marque était trop grand. En revanche, quand il s'agit du Bangladesh ou de l'Inde ou d'autres pays du Sud, évidemment, ce n'est pas pareil. Donc, il y a Bouygues, il y a Lafarge et il y a comme ça toute une série de partenariats avec des industriels parce qu'en fait, il n'y a aucune opposition. Comment vous dire? Ces gens soutiennent le système industriel. Ils ne sont pas en opposition avec le système industriel. Ils applaudissent ce système, ils le soutiennent de toutes les façons possibles. Et en fait, ce qu'ils prétendent faire, c'est à la marge changer tel ou tel comportement, espérer qu'un jour viendra, mais quand, dans 50 ans, dans 200 ans, dans 3000 ans, où les industriels